Et ce matin, j'ai choisi un texte, qui est un de mes textes de prédilection, qui illustre un peu cette notion-là. Je vais tenter de définir les choses avec vous ce matin pour vraiment vous donner des outils pour tirer une meilleure partie de la vie. Si vous voulez, on va regarder le texte, il va apparaître sur la diapo derrière moi. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Répétez après moi, « Fais cela et tu vivras. » Je suis dur un peu de la feuille en vieillissant. Un peu plus fort, « Fais cela et tu vivras. » C'est un peu plus vivant en ce moment, là, de cette façon-là. Ce matin, on va regarder quatre angles de cette histoire. Une rencontre, une requête, une question. La réponse à la question et le résultat qui est promis en regard de cela. Je commence avec une rencontre. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Le contexte un peu, c'est que Jésus devait être en train de faire un enseignement. Il lui se lève, probablement après l'enseignement, il s'approche de Jésus et veut le tester ou veut le mettre à l'épreuve. Laissez-moi juste réfléchir avec vous un peu juste sur la notion de rencontre. Parce que quand on regarde notre vie, ma vie, votre vie, votre parcours de vie, on réalise qu'on vit des rencontres. Hein? Bon, premièrement, on est né d'une rencontre. Nos parents se sont rencontrés un jour. Ils se sont plus que rencontrés aussi. Et ça donne naissance à qui nous sommes. Mais après coup, quand on pense aux personnes qui se placent dans notre vie, qui nous influencent, que ça peut être à la garderie très très tôt, ça peut être à l'école primaire très très tôt. Et vous et moi, on peut tous se souvenir de gens qui nous ont marqués, à la fois positivement et parfois négativement, on a des souvenirs de gens qui nous ont blessés, qu'on sentait qu'ils ne nous aimaient pas et tout cela. Alors, les rencontres, c'est toujours quelque chose de fondamental. Ça définit, puis ça affecte à quelque part, ou ça influence le cours de notre vie. Et parfois, ça va changer la direction. On rencontre quelqu'un, puis hop, notre vie change de direction. Elle bascule du bon côté ou plus ou moins du bon côté. Mais ici, il y a une rencontre très spéciale. Puis vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus a eu plusieurs rencontres. Puis j'aimerais vous dire qu'un des éléments les moins connus de Jésus, c'est sa capacité d'établir des relations. On est souvent très, très axé sur le contenu d'un message, c'est-à-dire sur des paroles qui ont été dites. Mais avant que les paroles soient dites, Jésus a rencontré des gens. Et j'en mentionne quelques-uns à l'écran, des gens comme la femme samaritaine au puits. Et c'est fascinant, juste ça, c'est toute une histoire, parce qu'en principe, il ne pouvait pas parler à cette femme-là. Il ne pouvait pas échanger avec elle. Il y a la femme samaritaine, il y a la femme adultère qui est encore dans une situation encore plus difficile. Il y a Marthe et Marie avec qui, et Lazare qui avait tissé une amitié. Il y avait Zachée le publicain, le gars le plus méprisé de la communauté, et Jésus est allé loger chez lui, ce qui était inconcevable à l'époque dans la pensée des gens de son entourage, des juifs de l'entourage, surtout ceux qui étaient hyper religieux. Pensez à Bartimée l'aveugle, pensez à la femme qui avait une perte de sang. Jésus a rencontré plein de gens comme ça, et cette rencontre-là a été déterminante dans la vie de ces personnes-là. Alors, c'est un défi pour chacun de nous d'aller vraiment à la rencontre de Dieu en sachant que lui veut venir à notre rencontre. Parce que lorsque le docteur initie quelque chose en regard de Jésus, Jésus ne tourne pas le dos, Jésus ne se détourne pas, Jésus ne s'écarte pas, mais Jésus lève la discussion, accepte la discussion, malgré le fait qu'au départ, c'est un peu une mise à l'épreuve. Mais l'autre côté fascinant de cette histoire, c'est que c'est un docteur de la loi. Donc, c'est pas quelqu'un du peuple, c'est quelqu'un qui connaît la loi de l'Ancien Testament, la loi d'une portion de l'Ancien Testament, surtout le Pentateuque, et c'est un docteur de la loi. C'est l'équivalent moderne un peu d'un juriste. Essayez d'imaginer que vous rencontrez le chef du département de droit d'une certaine université. C'est un féru de la loi. Il la connaît sous ses doigts. Est-ce que vous avez déjà eu... C'est un avocat, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà une formation en droit. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un avocat? Vous êtes déjà retrouvé devant un avocat. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 18 ans, dans une espèce de cause dans laquelle j'ai été appelé comme témoin. Et les avocats se spécialisent dans quelque chose, ils se spécialisent dans des questions, OK? Parce qu'ils cherchent des réponses, donc ils posent des questions. Donc, et les avocats ne posent jamais des questions au hasard. Ils ciblent quelque chose pour cerner à la fois la victime dans ses propos ou cerner l'accusé dans ses propos. Et moi, je me souviens, je suis tombé sur l'avocat de ma ville, qui était l'avocat le plus réputé. Après 30 secondes, je savais plus mon nom, ma date de naissance, qui j'étais. J'étais vraiment sous stress. Il me posait des questions, puis je me mets à douter de moi-même et tout ça. Mais ici, essayez d'imaginer ce contexte dans lequel ce juriste, ce docteur de la loi, s'approche de Jésus. Et là, lui, il vise quelque chose. Maintenant, je ne veux pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas fait ou lui faire donner des motifs qu'il n'a pas. Mais le texte mentionne qu'il met Jésus à l'épreuve. Donc, cette rencontre est importante parce que elle va préparer quelque chose. Elle va l'amener à poser la question à Jésus. Et la question qu'il va poser, encore une fois, c'est intéressant, parce qu'il y a mille et une questions qu'il aurait pu poser. Il va poser cette question, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Écoutez, je ne sais pas ce que Jésus a pensé à l'intérieur de lui, mais si ça avait été moi, je dis, écoute, docteur de la loi, si tu poses cette question-là, mais ce que vous devez savoir, c'est que cette question, ce que j'appelle la requête, dans le mot requête, il y a le mot « quête ». C'est quand on pose une question, ça aussi exprime un besoin que nous avons à l'intérieur. Mais évidemment, si on pose la question, c'est parce qu'on n'a pas la réponse habituellement. Mais à quelque part, il y a cette quête, cette recherche de quelque chose. Si je vous dis ce matin, que dois-je faire pour avoir de l'eau? Ça présume qu'à quelque part, j'ai besoin d'eau soit pour me désaltérer, soit pour autre chose, mais ça exprime un besoin. Alors, ce docteur de la loi, malgré des années à étudier, à approfondir, il y a quelque chose qui lui manque. Et il y a probablement un doute à l'intérieur de lui ou un questionnement profond qu'il n'a pas réussi à répondre avec toutes ses recherches. Et là, il s'approche de Jésus et lui dit, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Pourquoi cette question-là? Il y a mille questions qu'il aurait pu poser. Quand on lit l'Ancien Testament, là, il y a des textes, là, c'est difficile à comprendre, dans le Lévitique, Deutéronome. Il me semble qu'il aurait pu trouver une question un peu plus compliquée pour mettre à l'épreuve Jésus. Il pose cette question précise. Pourquoi il essaie d'un petit peu de piéger Jésus, ou du moins de le mettre à l'épreuve ou de le tester? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir au juste? Lorsqu'il pose la question, « Ben, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Qu'est-ce qu'il cherche, le gars? Là, vous allez me répondre, « Il cherche la vie éternelle. » Je vais vous poser la question. Quand il cherche la vie éternelle, qu'est-ce qu'il cherche au juste? Quel est le sens de sa question? De quoi est-il question ici? Est-ce qu'il est question du salut? Est-ce qu'il cherche le chemin vers le paradis? Est-ce qu'il cherche comment faire pour aller au ciel? C'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser à nous. Mais encore une fois, c'est une requête. Mais littéralement, la question du docteur de la loi me donne de l'information aussi sur son questionnement intérieur. C'est quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Quelque chose qui ne l'a pas satisfait à l'intérieur de lui. Et ce texte fait allusion justement à la vie. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Wow! Maintenant, spontanément, si vous êtes de bons évangéliques ce matin, vous allez dire, mais écoute, pasteur Denis, c'est pas compliqué, il veut savoir comment aller au ciel, il veut savoir comment être dans la présence de Dieu pour l'éternité, tout ça. OK, mais pas sûr que c'est ça, de cela que ça se parle. Pourquoi je dis ça? Parce que pour littéralement mieux comprendre la question qu'il pose, il faut aller voir la réponse qu'il donne. Si je pose la question, regardez-moi ici un instant, je fais un petit quiz avec vous ce matin. Si je pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Vous allez me répondre quoi? Allez, s'il vous plaît, évangélisez-moi ce matin. Là. Si je vous dis que dois-je faire pour être sauvé, vous me répondez quoi? Crois en Dieu. Ah, c'est tout, là? Il n'y a pas autre chose? Me faire baptiser, mais avant de me faire baptiser, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Allez, non, mais... Moi, je vais mourir là, si vous ne me répondez pas à mes questions. Que dois-je faire pour être sauvé? Repentir. Après coup. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Après coup. Viens à l'église. Paye ta dîme. Non, ça n'a aucun rapport avec le salut. Aucun rapport avec le salut. Mais en fait, si c'est ça la question, ou si c'est ce genre de raisonnement de réponse à la question, ce qu'on se rend compte dans le texte, c'est que la réponse n'est pas bonne. Si la réponse à la question « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » La réponse, c'est... Et là, c'est encore intéressant. Est-ce que je vous ai dit que les avocats se spécialisaient dans les questions? Lorsque le docteur de la loi pose la question à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Qu'est-ce que Jésus répond? Deux questions. La Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Spécialisé dans les questions. Et les deux questions sont fascinantes, de détail. Qui dis-tu? Ça fait appel à la dimension très objective. Qu'est-ce que le texte dit? Mais qui lis-tu, ça fait allusion aussi à quelque chose de beaucoup plus suggestif. Qu'est-ce que toi t'as trouvé dans tout ça? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'a interpellé dans tout cela? C'est beaucoup plus cet élément-là. Ce qui est écrit, c'est objectif, mais ce que tu as trouvé, ce que t'as lu, ça, c'est ce qui t'a interpellé personnellement. Et le docteur de la loi dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ta face, ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et Jésus valide sa réponse en lui disant, tu as bien répondu. Docteur de la loi, il y a un deuxième principe avec tous les avocats, c'est que les avocats ne posent jamais des questions dont ils ne savent d'avance la réponse. Parce qu'ils vont se faire piéger. Où étiez-vous dimanche matin, là? Quelle date on est aujourd'hui, là? Le 25, c'est vrai, le lendemain de la fête nationale, Denis, franchement. La réalité, c'est qu'il connaît déjà la réponse. Il a besoin d'une, peut-être potentiellement d'une validation dans tout cela. Mais la question porte sur, et la réponse ne concorde pas avec la question, puisque tout à l'heure, je vous ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel pour être sauvé? Il m'avait répondu de me repentir, d'accepter Jésus. Il n'y a pas question de ça ici. La réponse, c'est tu aimerais le Seigneur ton Dieu. Ah oui, ça suffit? Personne ne me dit, mais pasteur Denis, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aimer Dieu de tout votre cœur, votre pensée, votre âme, vos forces et votre prochain, comme vous-même, puis ça y est, c'est réglé. Le problème que nous avons, c'est qu'à force de lire le mot vie éternelle, on associe la vie éternelle à la vie après la vie. Regardez bien un peu ma pensée. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre mots pour le mot vie. Le mot « bios », bien sûr, qui donne naissance au mot « biologie » en français, c'est la vie biologique, la vie dans mon corps, c'est la vie dans sa dimension de durée. Il a vécu 85 ans ou 90 ans. C'est toujours « bios » dans le cadre du Nouveau Testament. Le deuxième mot « vie » qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est « psouké », qui fait allusion, bien sûr, à l'animation intérieure. Il y a des gens qui parfois, sont un peu psychologiquement, pensons à quelqu'un qui est hospitalisé, qui est physiquement vivant, qui est sous traitement et tout ça, mais qui n'est pas actif intellectuellement. Donc, le psyché est affecté, c'est la vie de l'âme, la vie psychologique et psychique, les émotions, les pensées, la personnalité. C'est la vie dans son existence, le souffle de vie, là, qui fait qu'on est une âme vivante, ça c'est psyché. Êtes-vous toujours avec moi? Le troisième thème qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est anastrophe, qui est intéressant encore une fois. Ça, c'est le mode de vie. C'est la façon de vivre, c'est la manière de vivre, c'est notre conduite, notre comportement. Comment on la vit, cette vie-là, tout simplement? Bien, évidemment, ici, dans le texte, lorsque le docteur de la loi pose la question « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? », il ne pose pas la question sur le bios, sur notre vie physique ou psychologique ou nos comportements. Il utilise un autre thème, qui est le thème grec « zoé ». Et là, « zoé », ça devient hyper intéressant, parce que le mot « zoé », qui est souvent traduit par « vie éternelle », signifie le principe de la vie dans son essence, la vie comme Dieu la possède, parce que le Dieu vivant, là, le mot vivant associé à Dieu, c'est Zoé, le verbe qui s'associe avec. C'est la vie de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « La vie avec un grand V dans la vie avec un petit V ». C'est la vie dans la vie, c'est sa vie dans ma vie. Et c'est ça qui amène le changement. Je vais vous donner des définitions de théologiens. Strong, qui est un théologien connu à l'époque, puisqu'il est décédé maintenant, décrit la vie Zoé comme l'état de celui qui possède de la vitalité, qui est animé, toute âme vivante, la plénitude absolue de la vie qui appartient à Dieu, à Christ, dans lequel le Logos, la parole de Dieu, a mis la nature humaine. Il dit, c'est la vie réelle et véritable, une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait pour l'éternité. Alors, vous voyez qu'il y a comme deux vies deux conceptions qui se rencontrent, qui se jumellent. Un autre auteur qui s'appelle Vine mentionne que cette vie est à la fois une possession actuelle, mais aussi une espérance merveilleuse pour l'avenir. Par la foi, le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu, reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle puissance, exerce de nouvelles activités. La définition de mon mentor et professeur aux États-Unis, quand j'étudiais à l'époque, la vie éternelle est une source d'énergie provenant de Dieu. Parce que toute vie, c'est de l'énergie. Hein. Je ne suis pas en mode New Age, je suis en mode de vivant, de quelque chose qui est animé. Provenant de Dieu et dont toute la création a tiré son origine et qui régénère, transforme, renouvelle nos vies. Dites, wow! C'est ça la vie éternelle? Ouais. La vie éternelle, c'est deux aspects. C'est à la fois l'espérance, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, je serai avec Dieu pour l'éternité. Ça, c'est l'espérance. Pourquoi je dis espérance? Mais parce que je suis pas rendu là. Je crois que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Non, je crois que c'est vrai. Mais je suis pas dans cette vie-là. Je vais la vivre, cette dimension d'espérance, quand je suis dans la présence de Dieu. Mais c'est aussi et surtout, et c'est là que l'élément est intéressant, en regard de cette rencontre entre Jésus et le docteur de la loi, c'est une expérience. C'est quelque chose que nous devons expérimenter, en fait, que nous expérimentons lors de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est plus qu'un changement de parcours. C'est un changement à l'intérieur de soi. Moi, je garde encore avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vivacité, d'acuité, d'expérience, ma conversion. Je me suis converti à l'âge de 20 ans, suite à une adolescence difficile. Et quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, là, dans un contexte que je suis trop long à expliquer pour ce matin, je suis ressuscité, la nouvelle naissance, là, c'était plus qu'un changement de cap. C'est quelque chose de nouveau, un point tel que ma mère ne me reconnaît pas à la maison. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes yeux sont plus pareils. OK, c'est pas parce que je prenais des substances auparavant, là. Mes yeux étaient vraiment, j'étais rempli d'amour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 20 ans, tous mes frères ne comprennent pas ce qui m'arrive. Ils disent, t'es un boss de quelque chose. Je venais de rencontrer Jésus. Et le fait qu'il vienne vivre à l'intérieur de nous, par la présence de son Saint-Esprit, ça fait quelque chose. Et c'est, en fait, ce que j'avais vécu, c'est que j'ai reçu la vie éternelle. Mais pour beaucoup de croyants, la vie éternelle, c'est comme une espèce de concept. Ouais, ben, mon autre écrit dans le livre de vie, puis un jour, je vais être avec Dieu pour l'éternité. C'est plus que cela. C'est une expérience. Nous devrions, vous et moi, être les gens les plus vivants sur Terre. Mais regardez l'image qu'ont les gens de ce monde quand ils regardent les chrétiens. Ils en ont une église le dimanche. On a là des gens religieux. Puis ça dépend encore une fois des milieux plus exubérants que d'autres, plus vivants que d'autres. Mais fondamentalement, on devait être des gens qui vivent pleinement. Un jour, l'apôtre Paul a dit à Timothée, sa jeune recrue, combat le bon combat. Vous connaissez ce texte, hein? Vous oubliez la suite. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une confession. Saisis-la, pleinement. Maintenant, c'était pas un encouragement à plonger dans l'au-delà. C'est ce que tu as reçu, là. Saisis-la. Et la vie, c'est pas quelque chose qu'on a subi, c'est quelque chose qu'on a saisi. Elle est là. Dieu vit à l'intérieur de nous. Et c'est ça, cette dimension de la vie. La vie que Dieu nous offre, c'est pas quelque chose qu'on a subi, mais quelque chose qu'on a saisi. C'est pas un moins et un, mais c'est un plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous enlève maintenant que des chrétiens n'étaient plus droits. C'est quelque chose qu'on nous donne. C'est pas une valeur réduite à mon existence et à ma personne. C'est une valeur ajoutée. Maintenant, je suis comme ça. Wow! C'est pas quelque chose qui m'empêche d'être, mais quelque chose qui me stimule à. Ce n'est pas quelque chose qui me restreint, qui me refoule ou réprime, mais quelque chose qui me projette vers l'avant. Maintenant, je suis chrétien. Wow! Sky's the limit. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, là. Ce n'est pas une série de contraintes, mais une nouvelle liberté. Libre, enfin, libre. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau qu'on reçoit. C'est pas juste, évidemment, c'est pas une vie sans souffrance, mais sûrement pas une vie sans joie. C'est pas une vie sans conflit, mais sûrement pas une vie sans paix. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie pleine de possibilités. Maintenant que j'ai reçu ce dépôt de vie, les choses vont changer, les choses doivent changer. Et c'est vrai pour les nouveaux, tout comme nous, des gens parmi vous ici, vous êtes chrétiens de longue date, que peut-être vous manquez un petit peu de vitalité, de vivacité. Il faut réveiller tout. Zoé, c'est la vie que Dieu veut pour moi. Zoé, c'est la vie dans son intensité. Wow! Je vais la vivre, cette vie-là. C'est la vie dans sa plénitude. C'est la vie de Dieu en moi. C'est sa vie dans ma vie. C'est quoi? C'est la vie dans la vie. C'est la vie avec un grand V dans la vie. Un jour, un de mes fils, tout jeune, était avec moi en voiture. Je faisais quelques petites courses avec lui. Puis il me dit, « Papa, j'ai une nouvelle à t'annoncer. » C'est quoi? J'ai dit, j'ai décidé que je n'étais plus chrétien. Dans l'auto comme ça, là, tu me dis ça? Quand il y avait peut-être 6-7 ans, 7-8 ans. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, premièrement, papa, il faudrait que tu comprennes que maintenant, je crois à la théorie d'évolution. Fait que là, j'essayais de pas rire en voiture. Je me suis dit, il faudrait que tu m'expliques un jour c'est quoi la théorie d'évolution. Puis il me dit, j'ai dit, la deuxième raison, mais il dit, parce que quand on est chrétien, on n'a jamais le droit de rien faire. Puis là, j'étais fâché, pas après lui, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a contaminé. Parce que moi, la vie chrétienne, c'est pas une somme d'interdictions. Mais maintenant que tu es chrétien, tu peux faire ci, puis tu dois faire... C'est une propulsion. C'est maintenant que je suis chrétien, puis là, quand je vous parle de cela, là, je parle de ça par expérience dans ma vie, parce que je connais le Seigneur dans un milieu hyper légaliste, où après un an d'interdits, de règles, de pas de loi, après un an, je savais tellement tout ce que je ne pouvais pas faire que je ne savais plus ce que je pouvais faire. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il y en a qui sont de ma génération, ils avaient vécu ça, là, on ne sait plus. Donc, la révélation de la vie, pour moi, c'était quelque chose, probablement, qui était hyper thérapeutique pour moi, là. Mais j'étais en train de passer à côté de la vie, malgré que j'avais reçu la vie. Le temps de l'avant s'approche de Jésus, lui pose la question, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répond, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui es-tu? Tu devrais le Seigneur ton Dieu, ton cœur, ta force, ta pensée, ton âme, et ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est la réponse à la question. La réponse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je sais que vous connaissez ce texte. Mais ce qui est fascinant, vous savez quoi? C'est qu'il y a un récit un peu similaire dans Matthieu, chapitre 22, qui est un petit peu différent parce que cette fois-là, quelqu'un s'approche de Jésus, je pense que c'est un publicain ou un pharisien, ou un sadducéen, je ne me souviens plus du texte, j'y viens de mémoire, et il pose la question, quel est le plus grand commandement? Puis Jésus là, lui, va répondre directement, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le plus grand des commandements. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, regardez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, de ces deux commandements, où ces deux commandements résument toute la loi et tous les prophètes. Dites « wow ». Je sais que vous ne savez pas pourquoi vous dites « wow », mais ce n'est pas grave. Essayez d'imaginer que c'est une Bible, là, malgré que c'en est une, là, mais c'est une grosse Bible épaisse. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie de se dire « ça, il y a tellement de choses à mettre en pratique que je ne sais plus par où commencer ». On lit la Bible, on se sent coupable. Laissez-moi vous culpabiliser encore davantage. La Bible dit, soyez parfaits. Votre Père céleste est parfait. Ben, je ne suis jamais capable d'arriver à cet état-là. Mais en fait, tout cela, là, tous les préceptes, les proverbes, tout ce qu'on apprend, les commandements, tout ça, là, si j'en ai à faire une version condensée, ça serait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ta force, ta pensée, ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la version concentrée de ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, c'est pas peu. Mais qu'est-ce que cela veut dire aussi? En fait, ce que le docteur de la loi cite, c'est un verset de l'Ancien Testament, de Deutéronome, qui connaissait la loi. Mais la loi met en évidence deux choses. Ce texte de la loi met en évidence deux choses. La notion de relation et ce que j'appelle les axes relationnels. Aimer, c'est se fait à partir d'une relation. Aimer, c'est un verbe relationnel. C'est pas juste le sentiment, c'est aussi l'engagement qui va avec le sentiment. Quand on aime quelqu'un, je pense aux parents, surtout, c'est très visible avec les parents, quand ils sont inquiets pour leurs enfants, on voit que le lien d'attachement, la relation est tellement, tellement, tellement forte. On voit aussi quand cette relation, par exemple, entre deux amoureux ou un couple qui s'est aimé, mais qui maintenant, il y a une rupture, on voit tout le déchirement rattaché à la brisure dans la relation. Donc, la loi met en évidence la notion de relation et des axes relationnels de la vie. La loi met en évidence ses axes. Quels sont ses axes? Ils sont trois. Ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même et ma relation avec les autres. Ah, c'est intéressant, là. Aimer Dieu, aimer son prochain, comme soi-même. J'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas trois commandements, il y en a deux. Aimer Dieu, aimer son prochain, mais aimer son prochain comme soi-même. Donc, la loi met en évidence la relation que j'ai avec Dieu, la relation que j'ai avec moi-même et la relation que j'ai avec les autres. La loi met en évidence trois défis fondamentaux pour chacun de nous. La relation avec Dieu, nos défis spirituels, et ce n'est pas facile. La relation avec soi-même, regardez-moi ici un instant, vous avez déjà réalisé que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'ennemi, je l'ai trouvé. Okay. Ou le gars, il se fait la barre le matin en regardant dans le miroir, puis il se dit, t'es avec moi ou t'es contre moi aujourd'hui, non? Okay. Vous savez, on est souvent, on se fait pas de quartier, on se tente pas de chance, on s'achante sur nous-mêmes. Et tout cela finit par affecter la relation que nous avons avec les autres. Voilà pourquoi le « comme toi-même », C'est un préalable à la relation avec les autres. Et le grand défi, bien sûr, c'est le défi des relations, le défi socio-relationnel. Et ça, ça amène ce que j'appelle le paradoxe des relations. Le paradoxe des relations, c'est que nous avons besoin des autres pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Puis en même temps, c'est les autres qui nous font le plus mal dans la vie. Quand je parle des autres, parfois c'est les proches. Dans notre famille, dans les relations, parfois dans les amitiés aussi. Donc, c'est un défi. C'est le défi d'être en paix avec les autres. Sur le plan personnel, donc, chaque personne se retrouve devant trois grands défis dans la relation avec Dieu, je répète, avec soi-même et avec les autres. Sur le plan mondial, réfléchissez juste quelques secondes en regardant les actualités. La Terre entière, l'humanité entière est aux prises avec des problèmes religieux. C'est vrai ou pas vrai? Les futurologues avaient prédit la fin des religions il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Ça n'a jamais été aussi présent que ça, dans le mieux comme dans le moins bien. Là. Des problèmes psychologiques et émotionnels, nos sociétés évoluées, là. Nos sociétés occidentales, ici au Canada, les États-Unis, l'Europe et tout ça, les deux médicaments les plus prescrits dans ces pays-là et dans nos pays, c'est des antidépresseurs et des anxiolytiques. Pour l'anxiété et pour la dépression, est-ce que ça se pourrait que les gens soient mal en point dans leur vie? Et évidemment, l'humanité est aux prises avec des problèmes sociaux comme on n'a jamais vu. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas ça pour être un prophète de malheur, évidemment, ou désespérance, pour indiquer comment la loi met en perspective la réalité des besoins de l'être humain. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'être en paix avec Dieu. J'ai besoin d'être en paix avec moi-même aussi. Le mot paix qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est un thème grec qui fait allusion à l'harmonie entre deux parties. Ou je suis en paix avec Dieu, ou je suis en paix avec les autres, ou je suis en paix avec moi, mais il faut que je sois en harmonie avec quelque chose. La paix, c'est le résultat du fait que je suis bien en harmonie. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est vivre sa vie en harmonie avec Dieu, soi-même et les autres. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut travailler dans notre bien. En fait, si jamais j'avais un petit garçon qui viendrait me voir, qui monte de l'école du dimanche, me disait, Pasteur Denis, qu'est-ce que je dois faire pour bien réussir ma vie? Pour bien réussir, là, c'est quoi que vous me diriez comme clé? Et je m'assoirais, je tendrais sur mes genoux, je dirais, mon petit garçon, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, là, si tu veux vraiment tirer le meilleur parti de tout ce temps, là, tu vas soigner ta relation avec Dieu, tu vas en faire une priorité. Mais ben, c'est pas tout. Moi, je viens d'une époque, d'une génération où il y avait seul Dieu, le reste n'existait plus. Non, tu vas être en relation avec Dieu, tu vas mettre un équilibre dans tout cela, avec toi-même, investis en toi-même aussi. Prends soin de toi. Sinon, le voyage va être long. Et troisièmement, soin des relations. Si tu mets ces trois choses en priorité, tu vas tirer la meilleure partie de la vie. Et c'est ça l'élément important, mais je veux pas seulement pour un petit garçon, mais évidemment pour chacun de nous. Et c'est en fait le résultat qui nous amène à vivre cela. Parce que le texte nous disait, Jésus a répondu plutôt, « T'as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Le mot « vivre » que là, c'est hyper intéressant, c'est le verbe associé à Zoé, c'est « zao », okay? C'est « vivre pleinement », c'est toutes les définitions que j'ai données tout à l'heure, c'est l'expérimentation pleinement de la vie. Vous l'avez vécu, certains d'entre vous qui avez peut-être parfois vécu quelque chose de difficile personnellement, puis à un moment donné, ça se dénoue, ça se règle. Vous sentez bien, c'est comme si la vie revient. Même chose au niveau des relations, comment ça a un effet vivifiant quand les choses s'établissent, quand on est en harmonie avec tout le monde, nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents, et tout ça. Il y a quelque chose de bénéfique à retirer de cela. Mais ça ne se fait pas tout seul. OK? Jésus lui a dit, fais cela et tu vivras. Et le problème dans la vie de beaucoup de croyants, c'est qu'ils attendent. Ils attendent que les choses se fassent sans qu'eux mettent les choses en pratique. Et ça provient un petit peu du fait qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on fait, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Oui, mais là, je ne parle pas du salut dans cette perspective-là en ce moment. Je parle du résultat de la vie Zoé qui se manifeste dans notre vie à chaque jour. C'est Jésus qui lui a dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Il y a des choses dans la vie qu'il faut faire. Il y a des choses dans la vie qu'il faut mettre en pratique. Okay? Et le phénomène malheureux en ce moment dans notre monde, dans tous les réseaux sociaux, c'est que les gens mettent des belles pensées sur Instagram, sur Facebook, ils disent « Ouah, c'est donc beau ». Puis switch de un autre, ah, c'est vrai, ça c'est bien, c'est vrai ce qu'il dit. Mais on est devenu passif devant tout ça. C'est comme un peu si je vous amenais au resto, je vous amène chez Saint-Hubert, j'ouvre le menu Saint-Hubert qui est assez bien illustré, puis vous là, vous regardez le menu, puis vous dites, waouh, c'est super, ok, je l'ai assez regardé, maintenant je suis plein, là, je ne peux plus en prendre plus et tout ça. Mais tu n'as pas mangé, tu as juste regardé, là. D'accord avec moi? Et c'est ça le problème de la vie moderne. Les gens se deviennent de plus en plus passifs face à ça. Et passifs dans leur propre vie en regardant vivre les autres, sont tout aussi passifs qu'eux, mais on ne le sait pas parce que c'est des images. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vas expérimenter pleinement la vie. Mettre en pratique, expérimenter, déployer votre énergie à tout faire pour être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même et en paix avec les autres. D'ailleurs, dans mon livre que je viens toujours de terminer, c'est un livre qui porte sur ce qu'on appelle communément le concept des 12 étapes, mais que j'ai tout refait dans une dimension très, très chrétienne, très évangélique. Les trois premières étapes nous amènent à faire la paix avec Dieu. Les trois étapes suivantes nous amènent à faire la paix avec soi-même. Pasteur Jacques parlait de faire le ménage ce matin dans le petit temps de prière qu'on a eu au tout début de la réunion, avant que vous arriviez. Bien, c'est faire le ménage avec soi-même. Il y a quatre étapes qui nous amènent à faire la paix avec les autres. À rétablir les choses, à tout faire, ce qui est possible, face à ce qu'on a subi, face à ce qu'on a fait subir parfois. Et les dernières étapes, c'est de maintenir tout ça en harmonie le reste de notre vie. Ça devient un nouveau mode de vie. C'est quelque chose qui est là. Mais le problème dans la vie, c'est que les gens le savent, les gens trouvent ça bien, les gens trouvent ça beau, mais les gens ne l'expérimentent pas. Mais Zoé, c'est de l'ordre de l'expérience. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre ce matin? C'est de l'ordre de l'expérience. On expérimente les choses pleinement. On vit pleinement, on vit cette vraie vie-là et devient comme une vie qui est bénie, mais non pas sans notre participation, sans notre contribution. Bien sûr, c'est Dieu qui fait toutes choses, c'est le Dieu de la vie, mais quand je commence à mettre en pratique les choses commencent à se déclencher. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Vive, Zao, vive pleinement. Vous savez quoi? Le docteur de la loi était à la recherche de la vraie vie. Le problème, c'est que des fois, peut-être qu'il passait tellement de temps dans les textes de la loi qu'à un moment donné, à force d'étudier, c'est comme l'arbre qui masque la forêt. Hein. Tu es tellement dans les détails que tu ne vois plus. C'est comme quelqu'un qui est devant le mur, qui n'est plus capable d'avoir la perspective des choses. Et quand on s'éloigne, qu'on regarde l'entièreté de la Bible, on s'aperçoit que c'est le livre de vie. Et le Dieu vivant veut qu'on expérimente pleinement la vie. Okay? Donc, le message que Dieu nous offre, ce n'est pas un message seulement pour la fin. C'est un message pour le « ici et maintenant » de la vie. Et quand je vous dis ça, là, je m'excuse, je ne peux pas ne pas faire de retour sur ma propre expérience originelle là, quand j'avais 20 ans, où l'objectif, c'était toujours l'au-delà, la fin. C'était toujours, tous les messages partaient sur la fin, à un point tel qu'on était à côté de la vie, qu'on ne vivait pas. Puis je me souviens, j'étais jeune, je me disais, mais à quoi ça sert d'être chrétien si tu ne peux pas vivre? Pourquoi j'attends moi, que le temps passe, puis un jour je vais arriver au ciel, que Jésus revienne, ou que je monte en haut, ou que je meure, Et là, ce que j'ai compris, c'est que là, je dis, waouh, c'est quelque chose qu'on peut vivre ici pleinement. Je le répète encore, nous devons des gens qui saisissent pleinement la vie. Regardez bien ce que Martin Luther King a dit. Pour moi, la pire des tragédies n'est pas de mourir jeune, mais de vivre jusqu'à 75 ans sans avoir pleinement vécu. Ça, c'est Martin Luther King. Ce qui importe, ce n'est pas le temps que l'on vit, mais ce que l'on fait du temps qui nous est accordé. Et là, ce matin, je voudrais vous sensibiliser à ça. Ce que vous avez, la vie que vous avez. Ma femme, en ce moment, a fait quelques stages à la mission Bon Accueil. Elle était la semaine passée à l'Hôtel Dieu à Montréal, où il y a un refuge avec combien de SDF qui sont d'itinérants? 190 itinérants qui sont là. Et quand on plonge là-dedans, on se dit, « Mais, je reviens à la maison, j'apprécie la vie. » On a eu l'occasion ensemble de faire des missions au Mexique, dans le nord du Mexique. Quand on revient, là, on se dit, « De quoi je me plains, moi, là? » Quand je vois les enfants orphelins, vous savez, les enfants qui sont abandonnés, puis nous, on a la vie, on a souvent, bien sûr, avec la vie, on a la santé, pour ceux qui sont en bonne santé en ce moment, mais on passe à côté de la vie. Mais regardez bien, encore une fois, ce que l'apôtre Jean dit, mais ces choses ont été écrites, ou je pourrais dire ce matin, ces choses ont été dites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et la vie qui est là, c'est quoi? Zoé. J'ai pas entendu.
Zoé.
Zoé. Alors, vous allez sortir d'ici ce matin en disant, j'ai compris. Zoé, là, c'est ce qu'il faut que ça s'active dans ma vie. J'ai connu le Seigneur, je suis né nouveau. Maintenant, il faut que cette vie, là, trouve sa pleine expression. Et je vais la trouver à la mesure où je suis en relation avec Dieu, en relation avec les autres, en relation avec moi-même. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux demander de vous lever, s'il vous plaît? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Marchons la tête juste quelques instants, s'il vous plaît, dans ces dernières minutes. Seigneur, je ne peux pas jeter des regards dans ta parole. Je ne peux pas même enseigner sur ce sujet-là sans que ça m'interpelle encore, encore et encore, chaque fois à l'intérieur de moi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Tu n'es pas le Dieu des morts. Tu es le Dieu des vivants. Et Seigneur, je prie ce matin que chaque personne qui est ici, Seigneur, qui ne te connais pas, qui sont peut-être ici pour la première fois, peut se réaliser que justement cette vie nouvelle, elle est possible grâce à toi. Parce que tu t'intéresses à notre vie, tu t'intéresses à tellement pénétrer notre vie, que ta vie devienne quelque chose d'omniprésent dans notre vie, dans notre parcours de la vie de tous les jours. Seigneur, je prie que tu leur parles en ce moment. Je prie qu'ils s'ouvrent très grand leur cœur devant toi en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je réalise ce matin que ma vie n'est pas ce qu'elle pourrait être. Ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais je veux te la remettre, te la confier. Je te donne ma vie ce matin afin que tu agisses pleinement dans ma vie. Seigneur, je te prie spécialement aussi pour tous ceux qui te connaissent depuis un bon moment, mais peut-être qui sont un petit peu prisonniers d'habitude, d'une certaine routine, ils s'habituent à leur vie chrétienne et tout ça, et la vie n'est plus ce qu'elle était, ou leur vie n'est plus ce qu'elle était. Cette vitalité, cette vivacité, Seigneur, cette animation intérieure, Seigneur, je prie que tu éveilles toutes choses par ton esprit, l'esprit de vie encore une fois. Ta parole, c'est le pain de vie. Seigneur, tu es le chemin de la vérité et la vie. Zoé, c'est toi, la vie, Seigneur. Je prie que tu éveilles toutes choses, Seigneur. Je prie que tu les touches spécialement ce matin. Je prie, Seigneur, qu'ils ressortent de ce lieu ce matin, Seigneur, avec quelque chose d'imprégné au plus profond de leur cœur, Seigneur. Une seule vie à vivre. Une seule vie à vivre, mais on peut la vivre tellement pleinement avec toi au centre de notre vie, Seigneur. Certains devront chercher à rétablir leur relation avec toi de façon harmonieuse, Seigneur, sans tous les tiraillements, sans les doutes et les remises en question constantes. Certains devront apprendre à faire la paix avec eux-mêmes ou avec les autres, Seigneur, mais tout ça dans le but de te glorifier, de faire en sorte que cette vie que tu nous as donnée prenne tout son sens, Seigneur. Seigneur, je les place entre tes mains maintenant. Glorifie-toi en eux. Ton nom précieux, j'ai prié, Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia, Jésus.